Voz Congo.
Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette salle de conférence du cadre de concertation de la société civile Grand Katanga. Nous, c'est Vox Congo, en partenariat avec Internews, qui organise cette activité et évidemment en collaboration avec le REMAC. Le REMAC, c'est le réseau des médias associatifs et communautaires du Grand Katanga. Alors, nous nous réunissons aujourd'hui pour ce presse café. En fait, on aura à échanger autour du thème l'impact de la crise politique sur l'économie dans les quatre provinces de l'ex-Katanga. Alors, pour échanger, on aura des panélistes qui sont devant vous. On a M. Freddy Dikuzala. Il est diplômé en communication politique. Il est chercheur en communication, mais en même temps, il est analyste politique. Jean-Luc Kayoko, il est expert en entrepreneuriat. Il est en même temps expert en décentralisation. Voilà, il est activiste de la société civile. Il est team leader. Voilà. Et après, à côté de Jean-Luc Kayoko, il y a Giscard Kota, que beaucoup d'entre nous, surtout les journalistes, connaissent. Il est directeur de la radio communautaire du Katanga, section de Lubumbashi, donc RCK Lubumbashi. Et à l'extrême gauche, on a Monsieur Florent Moucha. Il est coordonnateur national de l'Association des économistes du Congo. Il est économiste et donc c'est avec quatre panélistes que nous allons essayer un peu d'échanger autour de ce thème, la crise politique et son impact justement sur l'économie dans les quatre provinces de l'ex-Katanga. Alors, avant d'en parler, vous devez savoir que cette activité a été rendue possible grâce à Internews, qui est le partenaire de Vox Congo, ici représenté par Monsieur Patient Ligodi, que je vais inviter à venir devant pour essayer un peu brièvement de nous parler sur le projet. Voilà, Patient.
Merci beaucoup. Je vais dire un grand merci à vous tous qui avez répondu présent à l'invitation du REMAC en partenariat avec Internews. Merci infiniment également aux panélistes qui ont accepté, eu égard au temps court qu'on avait pour organiser cette activité. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous espérons que ce sera vraiment des échanges assez riches qui vont nous permettre justement de pouvoir, une fois de plus, développer notre connaissance et agir en connaissance de cause. Cette activité fait partie d'un ensemble d'activités qu'organise le projet Vox Congo, qui est en fait un projet de l'ONG internationale d'origine américaine qu'on appelle Internews. Internews qui est basé à Kinshasa, qui essentiellement s'occupe du développement des médias à travers les pays. Mais là, on a lancé un autre projet depuis le mois de février qui s'appelle Vox Congo, qui est en fait un projet qui est financé par le département d'État américain, mais qui est mis en œuvre par Internews à Kinshasa. C'est un projet et qui consiste à pouvoir faire émerger les voix modérées dans les cas du processus démocratique en République démocratique du Congo. En fait, c'est quoi les voix modérées? Les voix modérées, c'est notamment tous ces experts. Vous vous souvenez, quand on suit les radios et les télévisions, quand on lit la presse au Congo, généralement, c'est les hommes politiques qui ont la plus grande place. Et parfois, c'est avec des propos un peu plus, on va dire, virulents, un peu radicaux. Alors là, on essaye de pouvoir faire émerger la voix des populations qui souvent ne sont pas à la télévision, à la radio, les experts, les membres de la société civile, pour essayer justement de pouvoir donner un autre son de cloche, pouvoir donner au public, à notre population, un autre contenu, à côté du contenu qu'on a régulièrement. Alors, ce projet, c'est entre autres un programme radio qui est diffusé sur une dizaine de radios à travers les pays, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, qui s'appelle Vox Congo, justement. C'est un bulletin de 5 minutes qui donne la voix, qui explique l'actualité, qui donne la parole à un certain nombre d'acteurs, des acteurs politiques également, des analystes politiques, les experts, les membres de la société civile, les professeurs, pour justement essayer de comprendre le processus démocratique en République démocratique du Congo. À côté de ces programmes qui sont diffusés ici à Lubumbashi, notamment sur Mangaza, notamment sur RCK et la Radio Phoenix. Nous avons cette activité qu'on appelle le Café Presse, qui est en fait une rencontre qui permet justement des échanges entre les experts qui sont là devant les acteurs de la société civile, les professeurs, même les politiciens, avec les journalistes. Alors nous souhaitons vraiment que ce moment puisse être assez intéressant, assez enrichissant, tant pour nos médias que pour nous-mêmes, aussi pour les publics. Ceux qui sont à l'honneur aujourd'hui, ce n'est ni Internews, ni Vox Congo, encore moins les REMAC, mais c'est les experts ici présents, et surtout vous. J'ai dit et j'ai vraiment.
Vox Congo.
Sans plus tarder, nous allons inviter M. Freddy Kikuzala. Vous êtes analyste, vous êtes chercheur en communication. Voilà, nous vous accordons en tout cas 5 minutes pour votre bref exposé. Vous avez la parole.
Mesdames et messieurs, messieurs les activistes de la société civile, messieurs les journalistes, je dirais que c'est pour moi un grand privilège de prendre la parole devant vous pour un peu échanger sur ce thème combien pertinent, sur l'impact de la crise politique sur l'économie de 4 provinces issues de l'ex-Grand Katanga. De mon humble avis, je pense qu'il était plus que temps qu'on commence à réfléchir sérieusement sur ce qui se passe et ce qui va arriver à ces 4 grandes provinces. C'est ici pour moi aussi l'occasion de remercier, de féliciter, d'encourager les gens qui ont organisé ces cafés de presse. D'entrée de jeu, je vous l'ai déjà dit, parce que je ne veux pas tergiverser, l'impact de la crise politique est fortement négatif sur l'économie des 4 provinces issues du Grand Katanga. Je vais m'expliquer. Les provinces que nous, sur lesquelles nous échangeons aujourd'hui ont 2 ans d'existence. De ces 2 ans d'existence, nous avons l'impression que l'économie tourne au ralenti. Cet état des choses ne pouvait être que une des conséquences de la crise politique que nous traversons actuellement. Nous savons tous que la politique et l'économie sont comme deux sœurs jumelles. Même si ce sont des fausses jumelles, quand l'économie est malade, la politique est malade et vice-versa. Je ne parlerai pas vraiment de la crise actuelle parce que nous connaissons tous ce qui se passe actuellement, mais sauf que cette crise politique est actuellement accentuée par la non-organisation des élections qui devait sanctionner la fin du mandat du président qui est en exercice actuellement. Et cette crise aujourd'hui a pris 3 formes. Nous avons la crise de légitimité, nous avons la crise des régimes, pas de crise des régimes parce que le consensus des forces politiques se trouve gravement ébranlé autour des procédures constitutionnelles en vigueur. Et enfin, c'est une crise d'État parce que le fonctionnement efficace des services publics est devenu problématique. Je disais déjà que le pays est en train de tourner en ralenti. Les acteurs politiques et les acteurs économiques qui devaient plus travailler sur le développement de nos provinces sont en expectative pour le moment. Ils sont en train de regarder est-ce qu'il y aura un troisième mandat ou pas, est-ce qu'il y aura organisé l'élection ou pas. Et pourtant, le peuple les attend sur le terrain pour travailler pour leur bien-être et pour le développement du pays. Aujourd'hui, avec cette crise, l'homme politique congolais commence à considérer les institutions de l'État et c'est leur mandat public comme un outil d'enrichissement personnel. Les conséquences, c'est facile à imaginer, notre pays est en ruine et nous avons une absence totale des instruments nécessaires pour imposer, maintenir et protéger notre état de droit. La nouvelle façon de gouverner, les nouveaux modes de gouvernance, c'est le clientélisme et la prédation. Vous allez remarquer que chaque acteur politique a une place au sein du pouvoir actuellement. Il a sa propre clientèle à satisfaire pour se maintenir au pouvoir. Et si notre pouvoir actuel est caractérisé par une certaine opacité. Mais quand on avait lancé les 4 provinces, je pense que tous les espoirs étaient permis. Nous avons 4 provinces, les Haut-Katanga, qui, heureusement pour cette province, elle a hérité de l'ancienne capitale provinciale de Lubumbashi, où tout semble bien. Elle a hérité des infrastructures routières et autres déjà en forme. Là, on n'a pas beaucoup à dire. Léo Lomami, qui est le champion du secteur du tertiaire, bien que ce secteur est négligé par nos autorités provinciales et nationales, nous avons les lois là-bas qui rivalisent en matière minière avec le Katanga. Enfin, le Tanganyika qui a un caractère minier et agro-pastoral. Dans ces provinces-là, tout indiquait que si on mettait du sérieux, ces provinces allaient se développer le plus vite possible. Et surtout que l'ex-Katanga a eu la chance que 2 anciens ministres de l'Intérieur qui ont travaillé sur le projet de ces provinces sont devenus des gouverneurs. Il y a le M. Mbuyu et M. Richard Mouyej. Donc, on avait tous les atouts parce qu'ils ont été en amont de cette grande réforme et nos provinces devaient se développer plus vite. Donc, c'est qu'on ne sent pas. Un problème s'est posé gravement parce que Promettre une chose et le réaliser, c'est difficile. Le pouvoir sur place a promis, je lis, dès l'installation des nouvelles provinces, le gouvernement de la République initie en concertation avec les autorités provinciales un programme d'équipement, de réhabilitation et de construction des infrastructures nécessaires au fonctionnement des nouvelles provinces. Il prévoit sur une période de 5 ans un budget pluriannuel d'investissement destiné au financement des travaux prioritaires des nouvelles provinces. Il procède annuellement à une évaluation des travaux réalisés dans le cadre du programme. 2 ans après, il y a lieu de se poser la question « Où en sommes-nous ? » Avec des provinces à caractère minier agricole, vous comprenez que nos provinces seront plus tournées vers les investissements étrangers. Or, étant donné la crise politique actuelle, aucun investisseur de long terme ne prendrait le risque de s'engager dans un pays où le climat politique est délétère. Dès lors, peu importe la qualité des stratégies de diversification économique élaborées par nos provinces, celle-ci demeurerait inopérante à raison des risques des pays trop élevés. La qualité de l'environnement des affaires, vous le savez, c'est l'indicateur particulièrement regardé par les investisseurs. On peut comprendre une certaine hésitation de leur part pour venir dans nos provinces, au moins d'être chinois. Donc en résumé, cette crise, pour moi, si nous allons vers l'économie maintenant, a des conséquences néfastes. Je citerai, il y a une crise des finances publiques et une détérioration de l'environnement des affaires qui se traduisent par une défaillance de l'État dans les services publics et une diminution des investissements productifs par la suite de la situation de la pauvreté. 2. Une forte dépréciation de la monnaie nationale. Il y a les PME qui ont actuellement difficile à sortir de la léthargie. Pourtant, avec de nouvelles provinces, les PME, les partenariats dont mon voisin de gauche est expert, les partenariats devaient être les nouveaux nœuds du développement de nos provinces, mais avec la crise politique actuelle, les PME ont difficile à s'en sortir.
Merci Monsieur Freddy pour votre bref exposé. Nous notons que vous avez dit que l'impact, n'est-ce pas, a été négatif sur les 4 provinces. Et donc l'économie de l'ex-Katanga tournée au ralenti. Nous avons noté ça. La crise qui sévit dans l'ex-Katanga est sous 3 formes, ou du moins sur toute l'étendue de la RDC. La crise de légitimité, la crise de la légalité et enfin la crise d'État. Nous avons noté ça. Et qu'il y avait aussi le clientélisme. Et lors de la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle en rapport avec les nouvelles provinces, le découpage, on avait cet espoir-là de voir nos provinces être suffisamment équipées, mais cela n'a pas suivi. Voilà. Nous allons passer la parole à l'économiste Florent Moucha, brièvement aussi. Voilà. Vous avez la parole.
Je vous remercie beaucoup de l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui de vous voir, de partager nos réflexions sur la situation économique de notre pays, en particulier et celle de l'espace région ex-Katanga en général. Nous voyons que, d'une manière générale, notre pays a quand même connu une certaine croissance. En me référant aux statistiques de la Banque centrale du Congo, nous avons le taux de croissance qui a évolué pratiquement. En 2016, nous avons connu le taux de croissance le plus faible jamais enregistré sur la décennie passée. En 2015, il était à 6,9. Aujourd'hui, en 2016, il est à 2,4. Donc, malgré cette crise, entre guillemets, moi je ne qualifierais pas de crise, peut-être des tensions liées aux préparatifs de l'organisation des élections, nous avons connu 2 soubresauts importants. C'est celui d'abord du découpage territorial qui a entraîné le fait que, au niveau de l'organisation en général, de ces processus qui est à la fois technique, administratif et en dernier politique, n'a pas été bien préparé. Ce qui a entraîné une certaine perturbation de l'appareil financier et administratif de l'ex-province vers les nouvelles provinces. Une année après, nous constatons quand même qu'il y a certaines provinces qui, administrativement, financièrement, s'équipent mieux que d'autres. Nous avons celle qui a hérité de tout l'appareil financier de la province, c'est la province du Yokatanga. Et en second, nous avons la province du Lualaba qui a quand même hérité non pas d'un appareil administratif, parce que nous... On constate que l'appareil administratif et financier du Lualaba s'est construit très rapidement. Presque tous les services de l'État devient de plus en plus autonome. Il y a des directions provinciales de la DGM, direction provinciale quoi, des recettes là-bas. Tous ces appareils-là qui servent quand même à ce que l'appareil politique ou administratif de l'État puisse gérer la province commencent à s'installer. Nous avons le même constat pratiquement au niveau du Tanganyika, mais le rythme n'est pas le même que celui du Lualaba. Il est lent, mais il va aussi en progression et en puissance. Au niveau du Olomami, bon, ils connaissent d'assez sérieuses difficultés. C'est encore embryonnaire, mais ça donne quand même une perspective, dans un bref délai, de voir que ces différentes provinces vont s'équiper. Du point de vue de capacité de mobilisation des recettes, bien sûr, nous avons le Haut-Katanga qui a encore pratiquement autour de 400 millions de dollars là, presque un demi-milliard. Nous avons le Lualaba qui tourne autour de 250-260 millions là comme capacité de mobilisation des recettes fiscales. Le Tanganyika, c'est autour de 100 millions et le Olomami autour de 50 millions. Donc vous avez les quatre provinces avec des configurations tout à fait différentes. Ce qui signifie quelles sont les répercussions autres que nous pouvons avoir. Au niveau de l'activité économique, nous savons que les deux provinces vivent de la production minière, du cuivre et du cobalt principalement pour le Lualaba et le Haut-Katanga. Trois ans durant, nous tournons toujours avec presque 1 million de tonnes de cuivre produit. C'est l'indicateur idéal pour voir que réellement, si à ce niveau nous constatons une baisse drastique de la production du minière, c'est qu'il y a réellement un impact réel d'une crise quelconque sur la situation politique. Nous avons connu l'arrêt des KCC, l'arrêt technique des KCC, qui a quand même des répercussions parce que c'était quand même un des grands producteurs du cuivre ici localement, dans les deux provinces ou dans la province du Lualaba, mais cela a été repris par la montée en puissance des Sicomines. Sicomine qui était à 25 000 tonnes, aujourd'hui Sicomine tourne autour de 100 000, 150 000 tonnes. Donc nous voyons qu'à ce niveau, la situation semble être maîtrisée. Mais là où la situation de la crise semble vraiment toucher, c'est au niveau du fait que nous pouvons constater que c'est depuis juillet 2016 que le taux d'échange, qui est aussi un grand indicateur, est passé pratiquement de 900, nous sommes partis de 965, et aujourd'hui nous parlons de 1400. Donc de 965 à 1400. C'est là où nous devons creuser davantage pour comprendre pourquoi la production du cuivre et du cobalt est stagnante. Nous sommes restés pratiquement autour de 1 million les 3 années passées. Le prix du cuivre qui baissait à un moment donné, aujourd'hui, les deux derniers trimestres, nous atteignons par exemple au prix du cuivre de 6 000 dollars la tonne, qui est passé pratiquement 2015, la moyenne était de 5 500, et aujourd'hui autour de 6 000, 6 200. Et là où il y a une augmentation spectaculaire, c'est au niveau du cobalt, où pratiquement nous sommes premier producteur mondial du cobalt. Aujourd'hui, ça tourne autour de 44 dollars le kilo. Donc, nous sentons là que la morosité qui frappait hier le secteur minier est en train de passer. Le secteur minier est en investissement. Le secteur minier ne veut pas cautionner une crise quelconque qui puisse permettre à ce qu'il y ait du désordre, empêchant à ce qu'il profite de l'embellie actuelle sur le marché mondial. Donc, à ce niveau-là, nous pouvons nous dire que, quoique il y ait crise, quoique il y ait perturbation d'ordre dans la perspective, parce que au niveau des activités économiques en général, on ne gère pas le passé, on gère le futur. Et dans les grands investissements qui sont le secteur minier, on regarde 5 ans, 10 ans, 20 ans après. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Nous avons réussi en 2016 de capter pratiquement 5 milliards de dollars en investissement direct étranger, ce qui signifie quelque part, il y a une certaine confiance qui ne se crée pas, qui ne se renouvelle pas, mais qui est quand même là pour dire que nous pouvons capter plus. D'après les prévisions de la Banque mondiale, nous devons être déjà autour d'une production de 1,5 million de tonnes de cuivre, avec ses corollaires sur le cobalt, sur le zinc et tout le reste de production. Mais nous n'avons pas atteint ce cap-là de 1,5 million de tonnes en rapport avec le fait qu'il y a un frein à l'investissement direct étranger. 5 milliards, c'est beaucoup pour beaucoup, mais ça devait être beaucoup plus que ça et générer beaucoup plus d'emplois. Mais là où je veux m'atteler, c'est par rapport à la question du jour, de voir que Le taux de change, c'est lui qui explique un peu tout. Nous sommes passés pratiquement de 9,50 à 1400 aujourd'hui. Au moment où nous sommes restés pratiquement tous les 50 ans avant, on tournait toujours autour de 900. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, de 950 à 1400? Bien sûr, la perspective des tensions électorales liées à la présidentielle fait que beaucoup profitent de la situation du fait qu'il y a quand même un bon prix du cuivre, un bon prix du cobalt. On produit davantage, on vend davantage, mais on ne rapatrie pas suffisamment de fonds vers le pays. Vous verrez que beaucoup d'opérateurs économiques rapatrient au pays les minimums nécessaires pour son fonctionnement local. Tout le reste, c'est payé à l'étranger, l'argent reste à l'étranger. Et on établit que du temps où c'était quand même assez accepté, la moyenne de rapatriement de l'argent vers le pays, c'était autour de 30%. Aujourd'hui, nous tournons autour de 20%. Donc, il y a diminution du captage des devises d'extérieur vers notre pays. Et nous connaissons nous-mêmes que la situation générale de notre économie, c'est une économie extravertie. Nous produisons ce que nous ne consommons pas, et nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est qu'à tout moment, le pays a besoin de devises. Si le panier de rapatriement des devises diminue, ça se répercute directement sur le taux d'échange.
Merci beaucoup pour toutes ces informations-là qui accrochent pratiquement l'auditoire. Merci, Florent Moucha. Au fait, on retient, selon vous, que par rapport à la production du cuivre, du cobalt, au fait, sur le secteur minier, ça marche très bien, mais l'impact sur l'économie du pays paraît négatif. Pourquoi? Parce que, justement, les investisseurs ne rapatrient pas les devises, ça reste à l'extérieur. Et du coup, ça impacte même sur le taux d'échange, qui était à 965, aujourd'hui on est à 1400. Voilà. Et Jean-Luc Kayoko, vous êtes activiste de la société civile, vous êtes expert en décentralisation et budget participatif, vous êtes expert en entrepreneuriat. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain, Jean-Luc?
Merci. Je vais commencer par le commencement. C'est que notre pays a adopté un mode de gestion décentralisation qui signifie que booster le développement à la base, ça veut dire rapprocher les gouvernants des gouvernés avec tous ces corollaires. Tous ces corollaires, c'est quoi? Donc, chaque entité territoriale décentralisée est censée avoir un plan de développement. Donc, est censée savoir je suis où, je vais où. Il y a le développement de PPP. Partenariat privé-public. Pourquoi partenariat privé-public dans la décentralisation? C'est parce qu'on a constaté que toutes les gestions exécutées par le gouvernement, ça ne marchait pas. Mais quand c'est mixte, on a un peu de contrôle mutuel, de respect mutuel. On a aussi ce qui nous prend beaucoup d'argent, qui est les PMP, donc la passation des marchés publics, qui, à un certain moment, ne se faisait que de gré à gré, ça consommait, et puis, on a mis une loi pour respecter les procédures. Et puis, il y a aussi la participation citoyenne. Dans tout ça, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le découpage qu'on a pu avoir dans notre pays, c'est un découpage qui est politique, qui n'a pas été un découpage normal. Parce qu'en fait, le découpage devait être la dernière des opérations de la décentralisation. Dernière des opérations, c'est-à-dire quoi? Après avoir eu un plan de développement, après avoir eu un renforcement des capacités des entités, des animateurs des entités, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les animateurs des entités territoriales décentralisées sont des apprentis sur l'État. Donc chacun fait selon ce qui lui passe par la tête. Or, dans la programmation de la décentralisation, il fallait qu'on forme tout ce monde-là. Il fallait qu'on forme même les gens de la société civile par rapport au découpage. Dès qu'il y aura découpage, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se faire? Il y a aussi un autre élément important, ce sont les élections locales qui n'ont pas été faites. Au fait, le découpage devait être lié aux élections locales. Ça veut dire que les élus de Kolwezi devaient devenir des notables du Lualaba par rapport à leur entité. Mais il n'y a pas eu des élections électorales, la politique a poussé très fort, et on a eu le découpage. Donc les conséquences, d'abord, même l'économie n'était pas préparée. Qui devait faire quoi? À quel moment? Y a-t-il eu pour savoir qu'est-ce que cette province va développer pour qu'elle devienne une province. Parce qu'être province, ce n'est pas seulement vous appeler province, c'est avoir une économie, c'est avoir une production. Un autre aspect aussi très important, qui est en train de créer d'ailleurs parmi les désordres ou la guerre, ce sont la délimitation des provinces. On n'est pas très sûr. Vous avez vu que à Maniema et Tchopo, c'est un problème terrible. Ce n'est pas seulement là-bas. Il y a des gens aussi, une des provinces, oh Lomami, qui disent que Lualaba a pris une partie, oh parce que moi j'étais ministre, il a donné la... Donc, il y a encore cette délimitation qui nous pose problème. Donc, le jour où on va trouver de l'or dans ces corridors-là, c'est la guerre. Il devrait aussi y avoir une main-d'œuvre qualifiée. Nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée dans toutes ces quatre provinces. On est en train de bricoler. La preuve, c'est que la Banque mondiale a formé des gens sur la passation des marchés, sur la chaîne de dépenses. Mais on est arrivé aujourd'hui, on a licencié tout ce monde-là. Chacun met la main-d'œuvre qu'il veut. Donc, à un certain moment, on comprend que même les travailleurs pour gérer l'économie ne sont pas expérimentés, n'ont pas d'expertise. Comment voulez-vous parler d'une économie avec quelqu'un qui apprend sur l'État? Quand quelqu'un apprend sur l'État dans l'économie, donc il se sert. Parce que qu'est-ce qu'il connaît des lois? Qu'est-ce qu'il connaît des principes de chaîne de recettes, de chaîne de dépenses? Ce devait être des gens qui devaient être formés pour ces conséquences-là. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe en réalité? Les ODD, les objectifs de développement durable, exigent à ce que pour que le Congo soit un pays émergent en 2030, il faut que le Congo ait un budget mensuel pendant 15 ans de 31,6 milliards comme budget par an. Or, la question, est-ce que nous sommes en mesure? Donc, en conclusion, c'est que l'économie de ces quatre provinces posera toujours problème. La crise politique qui a amené d'abord des dirigeants qui ne sont pas adaptés à ces provinces. Parce que l'adaptation de dirigeants à la province, c'est de connaître la province. Ce n'est pas être originaire de la province. Qu'est-ce que tu connais de la province? Quelle politique tu vas utiliser dans cette province pour arriver à booster l'économie? Quel est le niveau de participation de citoyens dans cette province, dans ta gestion? Donc, ces questions-là restent posées. Et puis, quels sont les experts que vous avez? Quel est le plan de développement que vous avez sur lequel vous visez mettre votre économie? Parce qu'on ne peut pas produire pour produire. On doit produire pour un objectif. Maintenant, ce sont les investisseurs étrangers, comme disait tout à l'heure Moucha, qui en profitent dans notre désordre. Au lieu que notre économie s'améliore, la production s'améliore, notre économie s'enfonce. Pourquoi? L'homme n'est pas au centre, les dirigeants ne maîtrisent pas les paramètres économiques de leur province, et conséquence, on est en train de travailler avec des apprentis sorciers. Alors, quand on a des apprentis sorciers, vous comprenez d'abord, il est apprenti, et puis il est sorcier. D'abord, il est apprenti, il bricole, et puis il est sorcier, donc il bouffe. Donc, conséquence, vous avez lié deux démons au même moment. Comment voulez-vous avoir une économie qui se développe?
Merci Jean-Luc. Nous retenons que l'économie des quatre provinces posera toujours des problèmes. Pourquoi? Parce qu'à la tête de ces provinces, on manque de dirigeants, de décideurs qui soient à la hauteur, qui ne maîtrisent pas certains paramètres, la gestion justement de ces quatre provinces. Voilà. Pour arriver au développement durable, il faudrait que la RDC soit à même de mobiliser 31,6 milliards de dollars américains. C'est colossal, il y a encore des efforts à faire. Et dans l'ensemble, nous retenons également qu'en dépit du découpage qu'il y a eu, ce découpage devait être la dernière opération après le renforcement des capacités des animateurs, n'est-ce pas, de ces quatre nouvelles provinces. Avant de venir ici, j'ai pu contacter mes confrères journalistes, Alphonse Mwamba de Kamina. Il a essayé un peu de me tracer l'image socio-économique du Haut-Lomami. J'ai essayé aussi d'atteindre Prince Baounda, il est dans le Tanganyika. Il m'a briefé un peu du social, de l'économie, par rapport à ce conflit Toa-Bantou, ça veut dire Pygmé-Bantou. J'ai essayé aussi d'entrer en contact avec François Kazadi, il est journaliste de la RTNC, dans le Lualaba. Il est présentement à Mouchacha, il est passé à Sandoa, il accompagne le ministre des Infrastructures. Au fait, dans l'ensemble, la situation socio-économique est grave. Dans le Haut-Lomami, Alphonse a dit, nous allons sur terrain aujourd'hui, mais je ne pense pas que le même effectif, disons, des élèves de la 6e secondaire, c'est le même effectif qu'on aura aujourd'hui pour présenter la session des examens. Pourquoi? Parce que justement, la monnaie ne circule pas entre les mains de pauvres populations. Les petits agriculteurs ont des difficultés d'écouler leurs marchandises, tout ça, et du coup, ils manquent d'argent pour payer les études de leurs enfants. Prince, il m'a dit que dans le Tanganyika, avec la situation qui sévit là-bas, conflit bantou, toi, ça pose d'énormes problèmes. Pourquoi? Parce que là aussi, les petits agriculteurs évitent d'aller au champ pour faire leur récolte. Ils craignent d'être tués par les pygmées. Et du coup, ça pose d'énormes problèmes, n'est-ce pas, sur le plan de l'économie. Giscard, je ne sais pas, toi tu es directeur de la RCK, journaliste. Je ne sais pas si toi aussi, tu as la même lecture que Alphonse Mwamba, journaliste à la RCK Kamina, Prince Baounda de la RCK Nyunzu et François Kazadi de la RTNC Lualaba.
Merci beaucoup, je tiens à vous remercier et je remercie aussi la grande assistance qui est devant nous. J'ose croire que nul n'ignore que la situation que nos amis vivent a été vécue et elle se vit encore aujourd'hui dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Il ne suffit pas seulement de rouler sur les routes asphaltées de la ville de Lubumbashi pour se dire que tout va mieux, mais il vaudrait mieux quitter un peu Lubumbashi et aller dans les périphéries pour se rendre compte de cet impact qui est aussi négatif, tout le monde l'a qualifié, et on le retrouve de cette même manière. Nous avons toujours l'habitude de sillonner cette périphérie, puisque nous devons récolter des avis et des considérations de nos amis qui nous écoutent et qui nous suivent souvent. Et par rapport à nos échanges qu'on a toujours eu, on trouve que l'homme de la périphérie n'est pas très bien informé face à son homologue du centre urbain. Puisque nous vivons dans des centres urbains, nous avons la chance de voir certains articles importés tomber sous nos toits, et il n'en est pas question dans les milieux qui nous entourent. C'est vraiment un impact négatif que les amis sont en train de vivre. Et même lorsqu'on parle des élections, on parle de la grande politique aujourd'hui, on parle des découpages et tout qu'on sort, pour les amis, ça importe peu puisqu'ils ne trouvent pas bon de vivre dans cette misère pendant que les autres sont en train de chanter la politique et autre chose. Alors, nous allons nous étaler là pour dire que les amis sont contrés au manque d'infrastructures. Qu'ils peuvent bien s'adonner à l'agriculture, nous voulons bien, nous savons qu'il y a des provinces où l'agriculture est avancée. Mais s'ils le faisaient, comment vont-ils écouler ces produits vers le centre urbain? C'est très, très, très difficile. Il n'y a pas longtemps, on a connu l'avènement du bois rouge qui a même bousculé toute l'agriculture. Les gens ne voulaient plus s'adonner à l'agriculture, croyant que c'était le bois rouge qui devrait mieux booster leur économie. Mais qui y était derrière le bois rouge? Ce sont toujours les grandes personnes que l'on connaît et pas un simple agriculteur, un simple paysan. Par rapport à cette lecture que les amis ont fait dans leur province, nous allons nous aussi attester que nous vivons la même chose ici chez nous. Les preuves sont là, tout le monde le reconnaît. Il n'y a pas longtemps, nous avons crié tout haut. Et d'ailleurs, l'expert à mon côté l'a même dit, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Tous les regards sont tournés vers les minéraux et on a oublié un secteur qui est primordial, un secteur qui devrait aussi nous booster, c'est l'agriculture. Or, si vous faites les calculs et si vous faites l'analyse, vous trouverez que c'est le secteur très minimisé dans notre milieu. En tout cas, s'il produit, tant mieux, mais à quelle échelle? Point d'interrogation, on peut dire qu'avec les analystes, on trouvera que nous sommes dans une production agricole très basse, d'où les camions, les poids lourds doivent à chaque moment sillonner nos routes et nous amener ce qui est peut-être le surplus chez d'autres amis. Ajouté à cela, nous avons vu qu'il y a un temps, les amis qui devraient faire l'exploitation artisanale n'ont pas eu accès à ces sites miniers. Or, avec une bonne politique, ce sont les amis qui devraient être aussi déversés dans le secteur agricole. Mais hélas, ce n'est pas le cas. On se retrouve dans un circuit fermé. Qui va où? Pour faire quoi? Point d'interrogation. C'est qu'il y a aussi réveiller un autre mode de vie. Nous savons qu'il y a des amis à gauche, à droite qui doivent se débrouiller pour trouver de quoi mettre sous la dent. Et avec ces amis, on ne suit plus la logique de la loi. Chacun s'est fait une loi pour quand même subsister. Si les amis font face à ces conflits de toit et autres, chez nous, nous faisons aussi face à ce manque d'encadrement, puisque chacun maintenant fait sa loi et il fait ce que bon lui semble pour trouver son moyen de vivre. Il est sans ignorer que même dans le centre urbain aujourd'hui, face à cette situation, à cet impact négatif, il y a de ses amis qui sont sur la rue chaque soir et en train de tracasser les paisibles citoyens. Et même pour les amis qui sont dans les environs, il faut y aller. Vous trouvez que la peur règne encore. Nous avons connu une grande exode. Les amis n'ont pas voulu demeurer dans les milieux où ils peuvent produire et amener les productions au centre de consommation. Les amis ont préféré quitter les lieux de culture et venir habiter le grand centre. La démographie galopante. Et ensuite, nous sommes confrontés aussi à ce même manque de manger. Et se rendre dans les milieux où on produit devient encore très difficile, puisqu'il y a des barrières partout. Et à chaque barrière, l'on doit déverser qui a un vélo 500 francs, qui a une moto 1000 francs, qui a un véhicule 7000 francs, voire même plus. Ce qui fait qu'il y a encore un ajout sur les prix des denrées qui pouvaient provenir de nos milieux très proches. Alors, on comprend bien que par rapport à ça, nous ne sommes pas différents de amis qui vivent dans des milieux que l'on peut appeler d'autres provinces par rapport à la grande province du Katanga. Si nous considérons cet aspect des choses, nous allons trouver que même l'ami qui est à nos côtés, donc qui est dans la périphérie, il est aussi sous-informé de tout ce que nous pouvons parler, de tout ce que nous pouvons dire. Il y a des grandes personnalités, il y a des grandes actions, mais l'ami qui est à côté est toujours sous-informé. Pourquoi? Puisque ceux qui pouvaient l'aider à être informé ne le font pas. Et tout ce qui est nécessaire pour trouver l'information est devenu encore difficile à trouver par rapport au prix. Aujourd'hui, nous venons d'être éclairés, le taux a encore augmenté, mais par rapport au paysan, chez lui, tout ce qu'il fait est encore à un prix très 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 bas qui ne peut pas lui permettre d'accéder à toutes ces informations.
Merci Giscard pour ton intervention. Nous retenons par rapport à votre intervention que la réalité pratiquement est la même, que ce soit dans le Tanganyika, soit dans le Olomami, dans le Lualaba, en fait c'est la même réalité qu'ici dans le Haut-Katanga. Alors, on va passer, n'est-ce pas, au jeu des questions-réponses. On va vous accorder la parole pour poser des questions. Alors, Monsieur Freddy Dikuzala, vous êtes chercheur en communication. Giscard venait de dire qu'il y avait une sous-information. Ça veut dire quelque part que la communication n'était pas suffisante. Vous êtes analyste politique. Alors, dites-nous un peu quelle lecture, quelle analyse faites-vous de cette crise politique qui sévit dans notre pays?
Je vais dire une chose en matière de communication. Aujourd'hui, comme certaines grandes écoles de communication le disent, on ne peut pas ne pas communiquer. Mais il faut avouer que nos politiciens aujourd'hui n'ont pas encore saisi la grandeur de la communication, l'importance de la communication. En fait, je peux même paraphraser, disant qu'aujourd'hui, gérer un pays, c'est communiquer. Nous sommes en train de parler de quatre provinces ici. Vous allez remarquer même à ce niveau-ci de la communication, nos frères gouverneurs sont abandonnés et par le gouvernement central et par leur parti politique dans ce sens ici. Que pour même juguler cette crise, il faut que l'homme katangais, le peuple katangais, se prenne en charge. Au pour que ce peuple, comme M. Giscard venait de dire, ce peuple, quand on parle du peuple congolais, nous pensons à ces 2% d'intellectuels que nous sommes dans cette salle. Mais n'oublions pas qu'il y a 98% des illettrés dans ce pays qui n'ont pas la chance de participer comme nous sommes en train de dire comme ça. Ils n'ont pas cette chance-là. Et dans les 2% d'intellectuels que nous sommes, nous, il y a 1% des gens qui réfléchissent sur ce qui se passe dans ce pays. Un autre là, ont démissionné de leur mission intellectuelle. J'ai fait une petite digression, mais maintenant je rentre là où j'étais. Je disais que les gouvernements sont même abandonnés par les partis politiques. Pourquoi? Il y a un rôle de parti politique, c'est l'éducation civique des populations. Est-ce que les partis politiques communiquent avec la base? Et ici actuellement, quand on parle des partis politiques, on voit les partis politiques qui sont au pouvoir. Eh bien, moi, s'il faut critiquer les partis politiques qui n'éduquent pas la population, je critique plus les partis politiques de l'opposition. Parce que les autres sont quand même occupés à travailler pour les biens du pays, ou même à voler ou à travailler pour les biens du pays. Mais eux ne font rien dans le civisme de la population. Ça, c'est de un. De deux, une grande remarque que je peux faire, vous m'excuserez, parce que je suis aussi de la formation. Sans blague, entre nous, collègues journalistes, nous faisons ici, surtout au Grand Katanga, au Haut Katanga aussi, nous ne faisons pas bien notre travail. Nous ne faisons pas bien notre travail. Apparemment, nos émissions, les contenus de nos émissions sont dirigés vers les 2% des intellectuels là, pas aux 98%. Ces gens vivent dans une misère impossible. À part la misère alimentaire, ils sont encore dans la misère communicationnelle. Ils vivent un déficit communicationnel impossible. Ici, mais pas loin, vous pouvez aller au Washi ici, poser la question sur certaines choses qui se passent dans ce pays. Les gens vous disent n'importe quoi. Souvent, je vois les gens en train de rire quand on met le micro-trottoir, on pose des questions, il y a des gens qui disent des bêtises, les gens rient. Mais ça ne doit pas faire rire. On demande à un élève de 6e année secondaire, qui est Sami Badibanga, il dit que ce sont des gens qui ont marqué le pays à leur époque, qui sont déjà morts, mais ça va quand même, l'air nous est resté. Ce sont des choses qui font pleurer. Ce qui est vrai est que, et les autorités politiques, et nous les journalistes, nous ne faisons pas bien notre travail. Notre travail est vraiment, pas de donner seulement les informations, mais d'éduquer aussi la masse. Parce que la presse, c'est l'information, et puis la formation. L'aspect formation entre nous, s'il faut demander à beaucoup de directeurs de programmes à présenter les grilles pour voir le pourcentage de l'aspect formation dans nos chaînes et organes des médias, l'aspect formation peut-être avoir 2%, mais l'aspect information et surtout divertissement, ça c'est la grande part.
Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre activité. C'est pas patient. Un mot de la fin aussi.
Le mot de la fin est simple, c'est un merci. Un simple merci. Un merci énormément aux panélistes. On a beaucoup appris, moi particulièrement. C'est toujours assez intéressant de pouvoir écouter les experts plutôt que d'écouter ceux qui ont des visées politiques. Parce que ceux qui ont des visées politiques veulent conquérir le pouvoir. Et ils ont des idées focalisées vers ça. Et là, on sent de personnes qui, d'une manière délibérée, ont donné tout ce qu'ils avaient. Un grand merci également à vous qui avez accepté de participer un lundi matin à cette activité, abandonnant vos activités respectives. L'objectif d'une activité comme celle-ci, on a vu dans la salle qu'il y a des journalistes, c'est de nourrir également nos médias en termes de contenu. On a parlé du local content, du contenu local. C'est intéressant de pouvoir parler essentiellement de ce que nous vivons ici, dans nos milieux respectifs. C'est bien de consommer l'info qui vient d'ailleurs, mais c'est encore mieux de pouvoir discuter, donner à partir de nos radios, à partir de nos télés, à partir de nos médias, de donner de la matière locale à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, à nos lecteurs. On a là, comme ça, beaucoup de matières qui ont été données. J'ai entendu dans la salle de personnes parler de la méthodologie. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes ici. On a des experts. Si on peut poursuivre ces débats d'une manière élaborée dans les cadres purement de programmes journalistiques, de programmes de médias, ce serait une bonne chose. C'est un pont que nous allons jeter entre les experts qui sont là présents et les médias qui sont ici, et la société civile, pour que demain après demain, que ces thèmes, peut-être d'une manière un peu plus élaborée, puisse être exploité dans un programme radio, dans un programme télé, et ainsi de suite. Nous avons bien accueilli la proposition d'avoir ce type d'activité au sein de la communauté. Je pense qu'il nous aura, pour cette période, il nous en reste 3. On va voir d'ici à la fin du mois de juillet, avec l'EREMA qui est le collaborateur pour cette activité, comment on va essayer de diversifier et pour que la prochaine fois qu'on ne soit pas ici, que l'on soit ailleurs. Mais l'appel est lancé essentiellement aux journalistes de pouvoir. On a des experts de grande qualité. On n'a pas besoin d'appeler les gens de Kinshasa pour expliquer aux gens les choses d'ici. On a, mais vraiment, moi je suis bluffé par rapport à la qualité, au contenu qui a été donné. Et donc si les médias qui sont présents, les journalistes qui sont présents, s'ils peuvent en tout cas prolonger ces débats dans leurs médias respectifs et être, comme on l'a dit ici,
un peu plus actif et ne pas dépendre des autres, ça serait une très bonne chose. Je veux dire un grand merci également au REMAC qui a rendu tout ceci possible eu égard au temps qui n'était pas, en tout cas notre meilleur allié, puisqu'on l'a préparé à 3-4 jours. Je veux dire également un grand merci aux médias qui sont présents et dire également que vous pouvez continuer à suivre le programme de Vox Congo à travers notamment les radios qu'on a citées ici. Je parlais de Mangaza, je parlais également de Radio Phoenix ainsi que de RCK en ce qui concerne les programmes qui sont diffusés. Ce qu'on fera, notamment à l'issue de ces programmes, à l'issue de cette activité, on va réaliser des courtes interviews de tout ce qu'ils ont dit pour le rendre disponible à tous. On va enregistrer une émission d'une heure qu'on va également placer sur Internet. Ceux qui en auront besoin pourront télécharger.
Vox Congo, de lundi à vendredi sur votre radio.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à notre café de presse. Le reste, ce sont les formalités administratives. Voilà. Le débat, les échanges peuvent continuer dans le couloir. Merci beaucoup.